Merci, merci beaucoup. Mais je voudrais à mon tour enfin, remercier Élodie et l'Institut Vidé pour l'organisation de ce colloque. Je regrette évidemment de ne pas pouvoir être en chair et en os à Paris. Et j'espère qu'il ne faudra pas attendre les 250 ans des grandes lignes pour nous retrouver. J'espère sincèrement. Alors, mon intervention a beaucoup d'écho avec l'intervention de Jean-François Kervégan. Puisque moi aussi j'aborderai la question du droit et des obligations dans les principes de philosophie du droit. Mais néanmoins, je vais tenter de faire un petit pas de côté. Je pense que ce sera aussi l'occasion de discuter, notamment sur la question de l'institution. Je vais y revenir. Donc, la proposition que je voudrais faire, c'est une lecture des principes de philosophie du droit à partir d'un principe en particulier, qui est le principe de réciprocité des droits et des obligations. C'est bien ça l'enjeu du titre, une philosophie éthique du droit et des obligations. Alors, ce principe est bien connu, hein, et on le retrouve à plusieurs endroits chez Hegel, non seulement dans les principes de la philosophie du droit, mais aussi à d'autres endroits. Jean-François Kervégan a notamment cité le passage de l'Encyclopédie sur lequel moi-même je reviendrai. Donc, ce principe est bien connu, hein, pas de droit, il n'existe pas de droit qui ne s'accompagne d'une série d'obligations et inversement, réciproquement. Il n'y a pas d'obligation qui ne soit liée d'une manière ou d'une autre à des droits. Ça, c'est le principe très général et effectivement, Hegel reprend ce principe à son compte. Alors, ce principe fait un peu partie du béaba, si je puis dire, des juristes, hein, ou en tout cas, il est bien connu, presque trivial et banal, trop bien connu que pour être véritablement connu, pour paraphraser Hegel. Ce que je voudrais montrer, c'est que Hegel propose un traitement original de ce principe. C'est ça un peu la. Mon hypothèse de lecture. Et cette originalité, elle tient, ça aussi était rappelé, notamment du fait du traitement des deux termes de ce principe de réciprocité, à savoir le droit et les obligations. Puisque dans les deux cas, ce qu'effectue Hegel, c'est bien un élargissement du concept de droit par rapport à ce qu'il appelle un droit juridique borné. Et par droit juridique borné, on pourra entendre effectivement un droit qui émane exclusivement d'une autorité légale reconnue pour telle. Ce serait le droit en un sens positiviste. Mais donc, Hegel opère un élargissement de ce concept de droit en parlant notamment de droits éthiques. C'est notamment les droits des parents et des enfants dans l'institution de la famille. Droit éthique qu'on ne peut évidemment pas réduire à un droit au sens où il émanerait d'une autorité légale reconnue. Le droit des parents à être obéis et le droit des enfants à être éduqués. Mais donc aussi élargissement, extension de la notion d'obligation, et je rejoins ce qui a été dit par Jean-François Kervégan, cette idée qu'en fait, il est un peu erroné, si je peux dire, de traduire le terme allemand de Pflicht par devoir. Puisqu'on réduit à ce moment-là effectivement le sens très large que Hegel accorde à la notion d'obligation, qui ne se réduit pas à un devoir moral, au sens kantien, mais qui inclut aussi donc quelque chose comme des obligations éthiques. Donc double élargissement de la focale autour du concept de droit et du concept d'obligation. Et cette originalité du traitement hegélien de ce principe de réciprocité des droits et des obligations, elle tient sans doute in fine à l'approche institutionnaliste de Hegel. C'est aussi hypothèse de lecture. Et donc cet institutionnalisme qui est en fait un institutionnalisme éthique, en dernière instance, on peut le résumer par deux phrases, par deux phrases clés que l'on retrouve dans les principes. Première phrase, l'idée de liberté n'est en vérité que comme état. C'est ce qui veut bien dire que la trajectoire de réalisation du concept de droit, elle n'advient véritablement que dans l'état. Et puis deuxième phrase, la même allure, c'est seulement, je cite, donc paragraphe 157 addition, c'est seulement en devenant citoyen d'un État bien constitué que l'homme, l'être humain, acquiert véritablement son droit. Alors, la question qui se pose et qui s'est posée, c'est de savoir si, in fine, l'institutionnalisme éthique de Hegel ne se réduit pas, finalement à un étatisme. Une question qu'on peut adresser à Hegel. Bon, je pense que non. Puisqu'en fait, l'État, dans les phrases que je viens de vous citer, l'État doit être pris en un sens presque métonymique, hein, c'est la partie valant pour le tout étant ce que Hegel appelle l'univers éthique. Et donc l'État est bien l'institution des institutions, mais renvoie en fait un complexe institutionnel, la famille, le système des besoins, l'administration du droit, le système judiciaire, les corporations et in fine, finalement, l'État au sens politique strict du terme. Donc, pour reprendre un terme aujourd'hui à la mode, je ne sais pas s'il est également en France, mais on pourrait parler de l'État comme un cluster d'institutions. Au sens où, effectivement, de la même manière que dans un cluster, lorsque vous prenez une relation de concaténation, vous en prenez toute une série d'autres, eh bien, l'État, c'est sans doute la même chose. Vous prenez une relation bien particulière, mais vous prenez toute une série d'autres relations qui sont institutionnellement médiatisées. Ce qui m'amène à mon hypothèse, celle que je vous soumets aujourd'hui à votre bienveillance et à la discussion, qui serait finalement de spécifier la nature de cet institutionnalisme. Alors Jean-François Kervégan a déjà rappelé cela, donc c'est la fameuse distinction que pose Maurice Auriou entre une institution chose et une institution personne. Et je voudrais pour ma part peut-être introduire une troisième compréhension de la notion d'institution chez Hegel, qui serait une institution relationnelle. Donc l'institution prise comme un réseau, un tissu de relations. Alors, petite note avant de commencer, on remarquera que parmi les commentateurs hegeliens, le traitement original du principe de réciprocité des droits et des obligations n'a que peu fait l'objet d'attention, hormis, je cite, pour les hegelianisants d'entre nous, hormis donc la contribution d'Adrian Peperzak dans un volume coordonné par Ludwig Zipf en son temps. Alors, on pourrait tout à fait expliquer cette absence de prise en considération de ce principe de réciprocité des droits et des obligations par le fait que ce thème n'apparaît pas, en tout cas pas littéralement, dans l'introduction de 1821. Donc, en fait, l'introduction systématique au principe de la philosophie du droit. On trouve par contre un traitement plus systématique de cette question, mais à la marge, à la remarque au paragraphe 261. Je vais y revenir. Mais par contre, on note que cette notion de principe de réciprocité des droits et des obligations est absolument central dans l'introduction à l'encyclopédie des sciences philosophiques et donc l'introduction à la théorie de l'esprit objectif qu'on y retrouve. Même si, on peut le noter, on retrouvait aussi déjà à Nuremberg, à la période de Nuremberg, dans la propédeutique philosophique, une doctrine du droit et des obligations, une doctrine du droit et des devoirs. Mais donc, dans l'introduction de 1830 de l'encyclopédie, Hegel parle effectivement d'un principe de réciprocité du droit et des obligations. Et c'est la citation numéro 1 de l'exemplier qui vous a normalement été communiquée. Ça a déjà été cité donc, par Jean-François Kervégan, mais je me permets de reprendre cette citation. Donc, c'est au paragraphe 486. Cela même qui est un droit est aussi un devoir, et ce qui est un devoir est aussi un droit. C'est le principe de réciprocité. Et Hegel s'explique, car un être-là n'est un droit que sur le fondement de la libre volonté substantielle. C'est la thèse centrale qu'il développe aussi dans les principes, cette idée que le droit en général, est l'être-là de la liberté. Et il ajoute donc c'est le même contenu qui, en relation avec la volonté, se différenciant comme subjective et singulière, est un devoir. Donc on aurait effectivement, d'une part, le droit comme fondement substantiel, comme être là de liberté, et ensuite, sa différenciation, même si le contenu est identique, sa différenciation en tant que devoir, obligation. Et il termine, donc c'est le même contenu que la conscience subjective reconnaît comme devoir et qu'elle amène en elle à l'être là. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce passage? Ben, c'est l'idée centrale, me semble-t-il, d'un primat du droit sur les obligations, mais un primat qui reste malgré tout relatif. Autrement dit, pour qu'il y ait obligation, il faut bien qu'il y ait au préalable quelque chose comme le fondement de la libre volonté substantielle qu'est le droit en général. Et donc l'obligation, plutôt les obligations, c'est important, il s'agit bien d'une multiplicité d'obligations par rapport à l'unicité du principe du droit substantiel. L'obligation, quant à elle, consiste donc en un rapport différencié de la volonté subjective à ce même fondement substantiel. Je reviendrai sur la notion de rapport qui est absolument centrale. Autrement dit, ce que Hegel nous propose dans la philosophie du droit, c'est bien une Rechtslehre, une philosophie, une théorie du droit, une théorie philosophique du droit, plutôt qu'une Pflichtenlehre, plutôt qu'une doctrine des devoirs ou des obligations. Mais sa philosophie du droit contient néanmoins, et j'aurais même tendance à dire aussi et nécessairement, et là je reprends une expression qui apparaît à la remarque du paragraphe 148, elle comprend aussi une doctrine immanente et conséquente des obligations dans la sphère éthique. Et cette doctrine, ajoute Hegel, des obligations, elle consiste en l'exposition, je cite, du développement des rapports qui, dans l'État, sont nécessaires de par l'idée de la liberté et qui, par conséquent, sont effectifs dans leur étendue totale. Donc, à quoi renvoient les obligations? Que les obligations ont un sens éthique, elles renvoient un ensemble de rapports effectifs, ceux qui prévalent au sein de l'État comme institution. Alors, il me paraît intéressant de souligner, et c'est ça la clé de lecture que je vous propose, de souligner que lorsque Hegel, dans l'introduction de l'encyclopédie, la doctrine de l'esprit objectif, lorsqu'il fait donc allusion au principe de réciprocité des droits et des obligations, il s'agit bien d'un principe qui est annoncé dès l'introduction. Et donc, on peut faire l'hypothèse de lecture que ce principe vaut également pour les autres sphères à part la sphère éthique. C'est ce que je voudrais vous tenter de montrer très rapidement. Et de fait, effectivement, quand on lit la partie consacrée au droit abstrait, on y retrouve une certaine formulation du principe de réciprocité, par exemple dans le droit de propriété. Donc, à mon droit en tant que propriétaire de la chose correspond, comme corréla, le devoir d'autrui de respecter mon titre de propriété. Et j'ai même, en quelque sorte, moi-même, des devoirs en tant que propriétaire de la chose. De la même façon, pour les contrats, pour le droit des contrats, le droit des personnes de conclure librement entre elles des contrats implique, en contrepartie, leur obligation mutuelle d'en respecter les termes, c'est le fameux pacta sunt servanda. Et donc, on retrouve bien dans le droit abstrait une forme de réciprocité des droits et des obligations. Alors, ça vaut aussi, dans une certaine mesure, pour la moralité, pour la sphère de la moralité, puisque, je reprends ici notamment le paragraphe 134, lorsque Hegel nous dit que donc, la moralité correspond effectivement au droit de la volonté subjective de ne reconnaître pour sien que les actions qui sont les siennes, ce droit de la volonté subjective comprend également un devoir, une série de devoirs, c'est ce que liste Hegel au paragraphe 134, le devoir, l'obligation de mettre en œuvre le droit, de se soucier de mon bien-être comme du bien-être d'autrui, dans un sens plus universel. Alors, néanmoins, et ça vaut aussi pour le droit abstrait, il y a là une forme d'unilatéralité ou de limite propre à la sphère de la moralité, hein, ce que Hegel appelle l'unilatéralité du point de vue simplement moral, unilatéralité qui a pour résultat notamment une forme de discordance entre les devoirs subjectifs et leur effectivité ou leur effectuation dans le monde. C'est la critique bien connue, là à nouveau, de la moralité au sens kantien, mais pas seulement, hein, cette idée que finalement, du point de vue kantien, du point de vue strictement moral, on aboutit à une forme de formalisme vide quand il s'agit de déterminer concrètement les obligations qui sont les miennes. Et je reprends ici un exemple discuté par Hegel dans l'essai sur le droit naturel de 1802. De manière assez ironique, hein, il parle effectivement de l'auto-négation de l'obligation patriotique de défendre l'État face à ses ennemis d'un point de vue moral. Alors, puisqu'effectivement, s'il me fallait passer le test kantien de l'universalisation de ma maxime, hein, celle de défendre mon pays face à ses ennemis, cette maximisation universelle de ma maxime déboucherait tantôt sur l'idée d'une guerre permanente, ou bien sur l'idée d'une paix perpétuelle. Mais donc, dans les deux cas, on n'aurait pas affaire à la spécificité, à la concrétude de l'obligation qui est la mienne, d'après Hegel, de défendre mon pays, mon État face à ses ennemis. Alors, ce qui montre bien que ce qui intervient ici, là, on peut être d'accord ou pas avec Hegel, mais sur cette question de l'obligation de défendre sa patrie face à ses ennemis, mais qu'il y a bien une dimension proprement éthique qui ne se laisse pas réduire à la perspective strictement morale kantienne. Effectivement, l'obligation patriotique de défendre son pays est sans doute une obligation éthique par excellence aux yeux de Hegel. Alors, tout ça m'amène à montrer la manière dont finalement l'obligation ou la réciprocité, le principe de réciprocité des droits et des obligations n'advient véritablement, n'a sa vérité ultimement que dans la sphère éthique. Ça suppose pour Hegel effectivement de caractériser aussi bien la sphère du droit abstrait que la sphère de la moralité par, on pourrait dire, par leur absence de support effectif de relation. Je m'explique. Je m'appuie ici sur la remarque au paragraphe 261. Je cite, dans les domaines du droit privé et de la morale, il manque la nécessité effective de la relation. Il manque la nécessité effective de la relation. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, à mon sens, que les relations juridico-abstraites, les relations de propriété et de contrat, ou les relations morales, ne sont en fait, in fine, pas constitutives des termes de la relation elle-même. Autrement dit, pour reprendre la relation juridico-abstraite, elles sont toujours extérieures. C'est l'idée de médiation par les choses. Donc, effectivement, le contrat porte toujours sur une chose, une Sache, une affaire. Donc, les relations sont tantôt extérieures, tantôt intériorisées, mais elles n'impliquent pas une relation de concrétude, une relation concrète à autrui. Autrement dit, me poser la question dans mon fort moral intérieur de savoir quelles sont les obligations qui me lient à autrui. Cette obligation, enfin, cette réflexion, je peux précisément la faire dans mon fort intérieur, mais je ne suis pas pour autant pris dans une relation d'individu à individu, interpersonnelle. Donc, en ce sens, ces relations juridico-abstraites et morales sont extérieures ou intériorisées, mais elles ne sont pas objectives, nécessaires et effectives au sens où l'entend Hegel. Et effectivement, je retire ici une phrase frappante de la remarque au paragraphe 271, où Hegel écrit: les rapports éthiques sont essentiellement des rapports de rationalité effective. C'est ça qui manque précisément aux relations que l'on retrouverait dans le droit abstrait et la moralité, c'est qu'il leur manque ce caractère de rapport de rationalité effective. Autrement dit, l'élément éthique est bel et bien le support, hein, Träger en allemand, le support du droit abstrait et de la moralité. C'est ce qui donne finalement un fondement, une assise stable aux principes qui prévalent dans le droit abstrait et la moralité. Et donc c'est ça toute la subtilité de l'architecture des principes de philosophie du droit, de montrer qu'effectivement l'éthicité qui apparaît à la fin est bien en fait au fondement du droit abstrait et de la moralité. Autrement dit, il ne peut y avoir par exemple de rapport de propriété ou de contrat que dans un monde, dans un certain monde éthique. Alors je cite à ce propos le paragraphe 144, donc l'introduction à la partie éthicité. L'élément éthique fournit, donc je cite, un contenu stable, qui est pour soi nécessaire et qui est un acte de subsister situé au-dessus de l'opinion et du bon vouloir subjectif, les lois et institutions qui sont en soi et pour soi. Alors, tout cela amène Hegel précisément à donner une définition de ce qu'il entend par obligation éthique, qui donc faut distinguer de l'obligation au sens juridique strict, aussi bien que de l'obligation morale. Donc, en quoi consiste une obligation éthique pour Hegel? Eh bien, une obligation éthique consiste en un rapport. Ici, on retrouve le terme essentiel de rapport en allemand, Verhältnis. Et le terme de rapport, Verhältnis en allemand, a une ambiguïté intéressante, puisqu'il renvoie à la fois l'idée de se rapporter à quelque chose d'autre, et aussi en allemand, c'est le terme de sich verhalten, donc de se comporter. Donc c'est à la fois se rapporter à quelque chose d'autre et un comportement propre. Et de fait, l'obligation éthique pour Hegel, c'est bien le fait de se rapporter à quelque chose de substantiel et d'universel, mais à quelque chose de substantiel et d'universel qui en même temps est mien. mais sans l'être tout à fait exclusivement. C'est-à-dire que dans ce rapport à quelque chose de substantiel, Hegel nous dit que j'éprouve, en tant qu'acteur éthique, en tant qu'agent éthique, j'éprouve ma propre dignité, le droit de ma particularité. Et donc, c'est ça, toute la subtilité de cette définition de l'obligation éthique, c'est qu'il y a bien entrecroisement, entremêlement du substantiel et du particulier. Alors, je vous donne à ce propos une citation, c'est la citation numéro 2, hein, dans les annotations, paragraphe 155. Les obligations sont des relations qui me lient, des rapports avec l'éthicité substantielle, mais celle-ci, cette éthicité substantielle, est mon essence. Elle a elle-même un être là par moi. Donc, l'éthicité substantielle, tout en étant mon essence, n'advient comme forme d'existence, comme mode d'existence, qu'à travers moi, ou plutôt qu'à travers l'obligation que j'ai vis-à-vis d'elle. Son être là, c'est-à-dire son droit de l'éthicité substantielle, et que je la respecte, que je respecte son être là, mon obligation est aussi mon devoir, c'est l'être là de ma liberté. Ce qui est enjoint aux hommes en tant qu'obligation doit avoir lieu pour quelque chose en quoi ils n'ont pas seulement directement ou indirectement leurs avantages. C'est l'idée que accomplir mes obligations en tant que membre d'une communauté éthique, ce n'est pas uniquement pour mon propre avantage ou pour mon bon plaisir, mais pour quelque chose en quoi ils, les hommes, les êtres humains, ont leur dignité, leur liberté, dont l'être là est par conséquent leur être. Leur être là, leur droit. Alors, ce qui permet à Hegel cette définition de l'obligation éthique, hein, comme rapport à quelque chose de substantiel, mais qui en même temps correspond à mon droit, ma dignité, cette définition donc, lui permet d'insister sur le fait que l'obligation éthique est bien à concevoir comme une émancipation, comme une libération de l'individu en direction de ce qu'il appelle la liberté substantielle et non pas comme une limitation, comme une Beschränkung, comme une contrainte extérieure qui lui serait imposée. Alors pour le dire encore autrement, les droits et les obligations, c'est une expression très étonnante que Hegel emploie, les droits et les obligations tombent en un, hein, fallen in eins, ils se confondent dans l'élément éthique. Je cite, ça a été déjà cité par Jean-François Kervégan, mais donc paragraphe 155, l'homme, l'être humain, grâce à l'élément éthique, a des droits pour autant qu'il a des obligations et des obligations pour autant qu'il a des droits. Et ce qui est important à souligner ici, c'est le grâce à l'élément éthique, hein, c'est durch das Sittliche, donc il y a bien ce processus de médiation en lequel consiste finalement la sphère éthique tout entière. Et Hegel applique cela également à l'État, ou à la remarque au paragraphe 261, puisqu'il nous dit que l'État, en tant qu'élément éthique, en tant qu'interpénétration, Durchdringung, du substantiel et du particulier, dans l'État, dont, ça a été cité aussi, obligations et droits sont réunis, vereinigt, en une seule et même relation, Beziehung. Alors, c'est donc bien dans l'élément éthique et dans l'État, comme métonymie de l'univers éthique, que sont réunis, véritablement médiatisés, l'obligation et le droit. Et ce qui est intéressant de souligner, c'est que systématiquement, ou presque systématiquement, quand Hegel stipule ce principe, il fait appel au contre-exemple, au contrevenant absolu qu'est la situation d'esclavage. Je vous cite, alors c'est l'addition au paragraphe 155, « L'esclave ne peut avoir d'obligation. Seul l'homme libre en a. » Il poursuit, toujours addition, paragraphe 155, « S'il y avait d'un côté tous les droits, autrement dit, s'il y avait d'un côté tous les droits du côté des maîtres, et de l'autre toutes les obligations du côté des esclaves, le tout, c'est-à-dire la totalité éthique, l'univers éthique, se dissoudrait. » Dissolution de l'univers éthique dès lors qu'il y a une unilatéralité des droits d'une part, des obligations d'autre part. Donc, ce que fait la sphère éthique, c'est bien la réunion de ces deux aspects. Car l'identité, ajoute Hegel, c'est-à-dire l'identité du droit et des obligations, car l'identité seule est l'assise que nous avons à maintenir fermement. Donc, je reviendrai sur cette question d'esclavage qui me paraît absolument centrale. Mais je voudrais continuer en tentant de répondre à la fameuse objection de savoir est-ce que l'institutionnalisme éthique de Hegel n'est pas finalement un étatisme. Et ça revient à répondre à toute une série d'objections traditionnelles qui ont été adressées à Hegel. Je pense ici notamment, je n'ai pas noté la référence, mais je pense que c'est le paragraphe 258. Paragraphe 258, où il semble y avoir une sorte d'exception au principe de réciprocité, mais je vais tenter de montrer que ce n'est pas le cas, au sens où Hegel semble poser une asymétrie entre, d'une part, ce qu'il appelle le droit suprême à l'égard des individus singuliers, droit suprême qu'il associe à la fin ultime, Endzweck en allemand, la fin en soi et pour soi de l'État. Donc, il y a d'une part un droit suprême à l'égard des individus singuliers, et d'autre part, toujours par ailleurs 258, l'obligation suprême d'être membre de l'État. Alors, je vous dis, donc, il semblerait y avoir une dissymétrie ou une asymétrie ici entre effectivement l'obligation des membres de l'État d'être membre de l'État et le droit suprême de l'État vis-à-vis de ces individus singuliers. Ce qui a amené certains commentateurs, je pense ici notamment à Axel Honneth, à voir en Hegel un partisan de ce qu'il appelle un autoritarisme libéral, à la suite sans doute de Hobbes, au sens où, effectivement, d'après Honneth, lisant Hegel, les citoyens de l'État hegélien se voient bel et bien reconnus dans toute une série de droits particuliers, ce que Hegel appellerait les droits civils, les bürgerliche Rechte, et à ces droits particuliers auraient pour contrepartie une série d'obligations à l'égard de l'État, des obligations d'ordre civique, dont fait partie le service militaire. Mais, ajoute Honneth, et c'est en cela que Hegel est un libéral autoritariste, mais à aucun moment l'État ne contracte une quelconque obligation à l'égard de ses propres membres. Alors je vous donne un autre exemple qui est un peu différent, mais finalement, la critique est fondamentalement la même. Donc, dans l'exemple qui est l'extrait numéro 3, tiré d'un article de Ludwig Zipp, je cite: Hegel ne développe pas le concept de droit de la personne à partir de la tension entre droit de la personne et domination de l'État, de telle façon qu'appartiennent au sens même de droit de l'homme la protection des libertés individuelles contre le monopole étatique du pouvoir. Donc il s'agit bien ici pour Zipp de dire qu'il y a cette impossibilité presque structurelle dans l'État hegélien de pouvoir, pour les citoyens, faire appel à des droits supérieurs à ceux de l'État, et donc d'obliger en quelque sorte juridiquement l'État à remplir ses propres obligations à l'égard de ses citoyens. Pour la conception que se fait Hegel d'un État dans lequel les droits individuels sont la fin de l'État et dans lequel les individus peuvent incorporer dans leur volonté les fins de l'État, ce conflit entre droits personnels et monopolisation du pouvoir étatique, ce conflit est secondaire ou secondarisé par Hegel. L'essentiel pour Hegel est de protéger les individus contre les personnes privées et des groupes, mais non contre la prépondérance de l'État. Alors, je voudrais tenter de répondre à ces objections bien connues, précisément en proposant une lecture de l'État comme une institution relationnelle, et cela par contraste avec une conception de l'État comme institution personne, mais aussi comme institution chose. Alors, le problème, évidemment, quand on suppose que l'État aurait une série d'obligations vis-à-vis de ses membres, ça supposerait précisément de faire de l'État un des termes de la relation. L'État serait obligé à l'égard de ses citoyens, ce qui fait de l'État un terme de la relation et non pas le support institutionnel de la relation elle-même. Je pense que c'est ça toute la subtilité, c'est de concevoir précisément l'État comme le support institutionnel d'une série de relations et non pas comme l'un des termes d'une relation éthique. C'est ça, je pense, le petit pas de côté qu'il faut faire. Alors, je reprends ici la critique que Hegel adresse, et elle me semble absolument fondamentale, à la monarchie féodale, qu'on peut effectivement considérer comme étant une institution personne. Donc, je cite, c'est la remarque au paragraphe 273, et dont l'exemplier est le numéro 4. Comme dans cette constitution, et donc il parle ici à la suite de Montesquieu de la monarchie, mais il insiste bien sur le fait qu'il s'agit de la monarchie féodale et non pas de la monarchie constitutionnelle moderne que lui-même préconise, hein, comme on le sait. Comme dans cette constitution, la vie de l'État repose sur un personnel privilégié. Alors, en allemand, auf privilegierte Persönlichkeit. On pourrait tout aussi bien dire sur la personnalité privilégiée du souverain ou du monarque, comme institution personne. Au bon plaisir duquel, in der Belieben, est confiée une grande part de ce qu'il faut mettre en œuvre pour la subsistance de l'État. En fait, tout dépend de la personne du monarque, dans le cas de la monarchie féodale. L'aspect objectif de ces prestations à l'égard de l'État n'est pas situé en des obligations, mais dans la représentation et l'opinion. Et c'est là la phrase qui me semble intéressante. De ce fait, au lieu de l'obligation, c'est seulement l'honneur qui tient l'État assemblé. Autrement dit, dans la monarchie féodale, il s'agit bien d'une logique de l'honneur, une logique aristocratique de l'honneur, mais qui ne repose pas sur un fondement substantiel universel, qu'est le droit. Le droit qui a exactement, pour contrepartie exacte, l'obligation. Et donc l'obligation n'est pas fondée en droit, elle relève de l'honneur et de la représentation et de l'opinion, une forme d'arbitrarité en soi. Ce qui me permet, alors là je me permets de sauter une citation, c'est la citation numéro 6, c'est à nouveau dans les notes au paragraphe 75. Weigel fait état effectivement d'une révolution à l'époque moderne. Et je ne vais pas lire l'extrait, je vous laisserai l'occasion de le lire de votre côté, mais donc ce qu'il faut retenir de ce passage, c'est d'une part l'idée qu'il y a bien une révolution fondamentale, et c'est quelque chose de bien connu de la part des historiens de l'État moderne, cette idée d'une universalisation de l'État, qui devient quelque chose de pensé, un objet de pensée, qui devient une fin qui est en soi et pour soi, et il donne l'exemple de Frédéric II, le roi philosophe, chez qui, effectivement, les domaines royaux, hein, qui étaient auparavant l'attribut du souverain, sont devenus des propriétés de l'État. Donc, cette idée d'une universalisation de l'État qui est absolument centrale pour Hegel et qui permet effectivement de fonder l'État sur le droit. Et ce qui m'intéresse, c'est les dernières phrases. En fait, il s'agit bien de rompre avec un système de privilèges. Autrement dit, il s'agit de rompre avec la logique particulière ou particulariste de l'honneur aristocratique pour développer quelque chose comme une logique universelle de l'obligation civique. C'est la dernière phrase. Il existe au contraire un étalon universel, répartition de l'universel, une expression très étonnante de la part de Hegel, Verteilung des Allgemeines, il s'agit de distribuer l'universel, pas de force obligatoire particulière de la noblesse, mais de tous. Il s'agit bien de les citoyens de l'État moderne, universel, sont bien liés universellement et non pas en raison de leur particularité. Alors, ce qui m'amène à deuxième chose, mais les deux sont liés, montrer que l'État n'est pas non plus à comprendre dans un sens strict comme une institution chose. Et ça, c'est la critique, me semble-t-il, bien connue que Hegel adresse à l'idée que l'État serait fondé sur un contrat, fût-il social. C'est l'addition au paragraphe 75, dans l'exemplier, le point numéro 5. Et donc Hegel critique effectivement l'idée qu'il y aurait quelque chose comme un contrat de sujétion des membres de l'État à l'égard de leur prince ou du souverain, et qu'en contrepartie, le prince, le souverain, serait lui-même, contracterait lui-même une obligation à l'égard de ses sujets. Il s'agit bien d'un contrat réciproque engageant des obligations mutuelles entre le souverain et ses sujets. Voici ce qu'écrit Hegel. Ce point de vue provient de ce que, de manière superficielle, on ne pense qu'à une unité de volonté diverse. Alors, il faut lire entre les lignes ici l'argument de Hegel, c'est de dire qu'effectivement, in fine, il s'agit bien pour de concentrer le pouvoir, le droit, dans la seule et unique figure du souverain, du monarque, du prince. Or, ajoute Hegel, dans le contrat, il y a deux volontés identiques qui sont l'une et l'autre des personnes qui veulent demeurer propriétaires. Le problème du contrat civil, c'est du contrat social, c'est bien de dire que tout fusionne en une seule et même volonté. Et donc, les relations des volontés particulières à volontés particulières, ces relations-là se dissolvent. Hegel ajoute, le contrat procède donc de l'arbitraire de la personne et le mariage a également ce point de départ en commun avec le contrat. Et donc, ce qui tient in fine le contrat social, c'est bien la volonté arbitraire des contractants et non pas un fondement substantiel. Mais, ajoute-t-il, dans le cas de l'État, il en va tout autrement, qu'elle ne réside pas dans l'arbitre vilcourt des individus de pouvoir se séparer de l'État, puisqu'on est déjà, de par son côté naturel, citoyen de celui-ci. Une sorte de principe de nationalité, ici au sens littéral, qui intervient, cette idée que les membres de l'État n'ont précisément pas choisi arbitrairement d'être membres de l'État, ils sont nés dans un État, naturellement, en quelque sorte. Il ajoute un peu plus loin, il est faux de dire qu'il appartiendrait à l'arbitre de tous de fonder un État, il est bien plutôt absolument nécessaire à chacun d'appartenir à l'État, pour qu'il y ait bien quelque chose comme un droit véritable qui advient, y compris pour les citoyens d'un État, il faut bien qu'ils appartiennent à un État. C'est ça ce que finalement Hegel entend par l'idée d'obligation suprême d'appartenir, d'être membre d'un État. Alors tout ça, donc si l'État n'est pas une institution personne, n'est pas une institution chose, il est bel et bien un ensemble de rapports éthiques. L'État est le lieu de la médiation des droits et des obligations, le lieu par excellence de la médiation des droits et des obligations. Il est, pourrait-on dire, même la médiation elle-même des droits et des obligations. Et qui dit médiation dit nécessairement que le droit et les obligations ne sont pas opposés diamétralement, mais aussi qu'ils ne sont pas parfaitement homogènes ou parfaitement identiques dans un sens abstrait. Alors c'est là où les choses se compliquent chez Hegel, et je vais tenter de terminer mon propos là-dessus. C'est cette idée qu'on retrouve effectivement dans la remarque au paragraphe 261, mais aussi dans la remarque au paragraphe 486 de l'encyclopédie. Cette idée que l'ensemble des rapports éthiques est en même temps un ensemble différencié de rapports. Et que donc ce qui advient dans la sphère éthique, dans la sphère institutionnelle éthique, c'est bien une différenciation matérielle quant au contenu, une différenciation matérielle du principe formel de réciprocité des droits et des obligations. Donc il s'agit bien pour Hegel de rendre compte de la différenciation du principe de réciprocité des droits et des obligations au sein donc des rapports éthiques. C'est à nouveau cette idée d'une distribution de l'universel. Et cela, il oppose à cela donc effectivement l'égalité abstraite que l'on retrouve du côté du droit abstrait et de la moralité. Donc il s'agit en fait d'envisager quelque chose comme une égalité différenciée ou différentielle par opposition, ou une égalité concrète par opposition à une égalité abstraite. Et de fait, alors c'est dans la remarque au paragraphe 261, Hegel parle d'une différenciation éthique due, je cite, du principe unique de l'obligation et du droit. Principe unique de l'obligation du droit, de l'obligation et du droit. Et en quoi consiste ce principe unique? Il nous dit, ce principe unique est celui de la liberté personnelle de l'homme, de l'être humain. Ce qui renverrait à la fameuse remarque, paragraphe 209, hein, de l'homme vaut parce qu'il est homme, l'idée d'une conscience de soi universelle. Alors je reviens précisément sur cette question de. Toujours dans cette même remarque au paragraphe 261, Hegel à nouveau reprend le contre-exemple absolu, si je puis dire, le négatif absolu du principe de réciprocité qu'est l'esclavage. Des esclaves, je cite, des esclaves n'ont pas d'obligation parce qu'ils n'ont pas de droit et réciproquement. Et donc, effectivement, on pourrait considérer l'État hegelien comme un État éminemment anti-esclavagiste. où l'esclavage peut tout au plus être considéré au même titre que les monastères, rappelez-vous, c'est le début de l'introduction au principe de la philosophie du droit, mais que l'esclavage pourrait tout au plus être considéré comme une institution historique, mais non pas, à proprement parler, comme une institution éthique. Autrement dit, l'État hegélien ne peut être, ne doit pas être même, parce que nécessité, ne peut être, ne doit pas être le support de relations serviles, ou de subordination, ou de domination. Et donc, l'État hegélien est bien un État où il n'y a ni maître, ni esclave, puisque les deux vont de pair. Alors, donc ça, c'est finalement la concession que Hegel fait à ce qu'il appelle le principe unique de l'obligation et du droit, hein, à savoir la liberté personnelle de l'homme. L'homme vaut parce qu'il est. Mais en même temps, il s'agit bien pour lui de montrer qu'il y a une différenciation de ce principe au sein de la multiplicité, de la pluralité des rapports éthiques. Et alors, c'est le sens, me semble-t-il, de la remarque, à nouveau au paragraphe 261, dans l'exemplier, l'extrait numéro 7, dans l'idée concrète, hein, donc il s'agit bien d'opposer l'idée concrète à l'idée d'égalité abstraite que l'on retrouverait dans le droit abstrait et la moralité, dans l'idée concrète qui se développe au-dedans de soi, les moments de celle-ci, en fait le moment de la liberté personnelle de l'homme, de l'humanité, les moments de celle-ci se différencient et leur déterminité devient en même temps un contenu différent. Dans la famille, le fils n'a pas des droits de même contenu que les obligations qu'il a envers le père, et le citoyen n'a pas de droits de même contenu que les obligations qu'il a envers le prince et le gouvernement. Alors tout ça, et je termine, je ne sais pas combien de temps il me reste, je tourne auprès de Monsieur Bourdin.
Il vous reste 3 minutes, cher collègue.
D'accord, parfait. Je me permets de vous donner un autre extrait qui va dans le sens d'un Hegel. Alors on sait que Hegel n'est pas partisan de la démocratie, hein, mais n'est pas pour autant un anti-égalitariste. C'est ce que je vais essayer de montrer. Mais donc, je vous donne ici un extrait. Cette fois-ci, c'est l'addition au paragraphe 539 de l'encyclopédie. Je cite « Avec l'État apparaît une inégalité, la différence des pouvoirs gouvernants et des gouvernés, les autorités, les magistratures, les directions, etc. » Donc, il y a une différenciation, une inégalisation, si on peut dire, dès lors qu'il y a État, l'institution. Le principe conséquent de l'égalité rejette toutes les différences et ne laisse subsister aucune espèce de contexte étatique. Et bien la furie de l'égalité qui détruirait finalement le support institutionnel même de l'État en égalisant parfaitement, en identifiant abstraitement les droits et les obligations. Ce que Hegel tente de montrer, c'est qu'il faut bien différencier les droits et les obligations, même s'ils participent d'un même principe, un principe unique, qui est le principe de réciprocité des droits et des obligations. Donc, autrement dit, l'État hegelien n'est pas un État esclavagiste, c'est moins qu'on puisse dire, mais il n'est pas non plus un État préconisant une forme d'égalité, en tout cas abstraite. Néanmoins, je voudrais quand même tenter de faire une lecture un peu plus généreuse de ces passages chez Hegel, parce que je pense qu'il est possible d'en faire une. Je m'appuie notamment sur l'extrait numéro 8 dans l'exemplier, la remarque au paragraphe 486 de l'encyclopédie. Alors, je lis « La voie de la médiation par laquelle leurs devoirs leur reviennent comme exercice et jouissance de droit suscite le phénomène de la diversité auquel aboutit le mode selon lequel, dans l'échange, la valeur verte normalement, reçoit des figures multiformes, bien qu'elles soient la même en soi. » Donc, autrement dit, il y a bien, c'est ça finalement un processus, on pourrait dire, d'égalisation qui peut revêtir des formes diverses dans la multiplicité, la pluralité des rapports éthiques. Et donc, de fait, les obligations des parents ne sont pas les mêmes que les obligations des enfants, et on pourrait même dire cela des citoyens. Les citoyens n'ont pas les mêmes obligations que les gouvernants. Voilà, mais donc il y a bien une différenciation. Mais ce que Hegel nous dit, c'est que malgré tout, cette différenciation, elle opère sous un principe unique qui est le principe de réciprocité. Puisqu'il ajoute immédiatement après, mais ce qui vaut essentiellement, c'est que celui qui n'a pas de droit n'a pas de devoir et inversement.
Je vais vous demander quelques mots de conclusion.
Oui, ben j'arrive à ma conclusion. Et donc, pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir une lecture plus généreuse de ces passages? Je pense qu'il y a un aspect alors, sur lequel Hegel insiste, précisément au paragraphe 486, c'est que ça relève de la finité même de la volonté objective qu'il y ait des différences entre droits et obligations. Hein, donc, ce qu'il appelle l'apparence de différence des droits et des devoirs, même si en soi, en principe, ils sont sinon identiques, en tout cas égaux. Et je pense qu'on peut avoir une lecture plus générale de ce passage en disant que ça participe précisément d'un processus d'égalisation, c'est-à-dire que les choses ne sont pas données d'emblée, donc les rapports éthiques peuvent se transformer précisément sous la poussée d'égalisation. Et je renvoie ici notamment à une petite remarque qu'il fait au paragraphe 155, qui parle de formales Verhältnis im Besonderen, donc c'est bien cette idée qu'il y a un principe universel de réciprocité des droits et des obligations, mais qui, dans la concrétude des rapports éthiques, peut conduire effectivement à des dynamiques d'égalisation des droits et des obligations, ce qui ne veut pas dire une identification complète des droits. Voilà, je terminerai avec cette proposition et je vous remercie pour votre attention.